France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Tous, autant qu'on est dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent, on est de plus en plus solitaire devant nos assiettes.
J'ai jamais mangé seul. J'ai eu une famille, du monde, des enfants, des petits-enfants. Tout à coup, je suis seule, j'ai horreur de ça. Je le fais, et je me fais des bons repas. Je ne bâcle pas, mais c'est pas gai.
Qui dit manger facilement le soir en rentrant du taf ne dit pas forcément manger des coquillettes avec du ketchup et du parmesan. On se cale dans le canap avec une maxi-série, le plaid en guise de bavoir. Ce plat juteux est un petit plaisir à chaque bouchée.
Par exemple, hier soir, j'ai mangé des toasts au saumon fumé bio avec du champagne, c'était pas triste.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster le plaisir de la table, l'art d'être ensemble, le partage d'un repas avec des proches ou des amis. Voilà une valeur très française. Et il y a d'ailleurs un mot très français pour définir cette convivialité à table, c'est commensalité, qui est même considéré comme l'un des piliers du repas gastronomique des Français, tel qu'il a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Mais alors, qu'en est-il de cette autre réalité sociologique qui consiste à cuisiner seul et à manger seul? Eh bien, c'est souvent mal vu, ça passe pour un comportement individualiste, égoïste, voire même honteux. Et si cette solitude, qu'elle soit imposée ou choisie, ponctuelle ou durable, était au contraire une formidable opportunité alimentaire, une occasion de s'émanciper d'une certaine norme sociale, une source de plaisir, voire une manière de reprendre le contrôle de son équilibre alimentaire. C'est le message que porte notre invitée du jour, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
On est ravis de vous avoir là, de l'autre côté du micro comme invitée.
Je suis enchantée aussi.
Parce que nos chers auditeurs et auditrices vous connaissent bien, Elvira. Vous avez votre ronde serviette dans l'émission depuis bien longtemps et vous venez de signer un livre qui va faire parler de lui, qui va briser un tabou et un certain nombre d'idées reçues. Recettes pour un, cuisiner pour soi aux éditions Le Seuil. Plus de 100 recettes quand même, spécialement conçues pour une personne. Mitonnée, il faut le préciser, et photographiée par vos soins. Vous avez pris toutes les photos vous-même, Elvira. Hein.
Oui, c'était un peu le journal de bord de ce que je me suis vraiment fait à manger pour moi seule. Donc c'était presque logique ou organique que je fasse les photos au fur et à mesure. Donc soyez indulgents, elles ne sont pas toutes
Elles sont très
parfaites.
Belles, hein. Elles sont pleines de charme et pleines de poésie. Et surtout, elles sont très gourmandes. Et on va en avoir une très brillante illustration dans nos assiettes. On se régale d'avance. Cuisiner seul ou manger seul, voici un apparent contresens dont s'est emparée la littérature. C'est ce qu'on va voir avec notre prof de lettres, Stéphane Solier, bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui, au menu, Marguerite Duras et les lettres gréco-latines.
Et oui, qui vont raconter, illustrer notre sujet du jour. Avec nous également notre chroniqueuse Justine Knapp. Bonjour Justine.
Bonjour. On parlera de cette grande bouteille de vin, intimidante pour les petites soifs et qu'on n'ose pas toujours déboucher.
Mais vous avez certainement des solutions à nous proposer, chère Justine. Il est critique gastronomique depuis plus de 40 ans. C'est notre mangeur masqué, François Simon. Bonjour.
Bonjour François-Régis.
Qu'est-ce qui fait dingue aujourd'hui, François?
Ah, aujourd'hui, on va aller vers les plaisirs solitaires, mais ce, profondément.
On va voir ça. Et vous, comment ça se passe dans votre assiette quand vous êtes seul? Réagissez, intervenez en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Et pour retrouver tous les contenus de notre émission, nos recettes, nos adresses, nos chroniques, nos podcasts, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry. On va déguster.
Bienvenue à la Sapinette, dans le petit village de Morillon, dans le Giffre, juste à côté de la mairie, la super petite fontaine, avec mon associé Pierre-Olivier. Donc on a ouvert la Sapinette en décembre dernier. Du coup, je m'appelle Victor, j'ai un cursus dans la restauration, mais en salle. Il y a 3 ans, je me suis mis à la cuisine, étant passionné de cuisine et de vin.
On a commencé par un petit resto de mairie, avec délégation de service public, et on s'est lancé comme ça parce qu'on est 2 anciens saisonniers. Voilà, et puis grâce à ça, on a pu monter ce deuxième projet, donc du coup la Sapinette. Et là, l'avantage, c'est qu'on a 30 couverts, donc plus petit, plus convivial, encore plus cocooning.
Du coup, on a une petite carte simple, efficace, 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, que l'on change au fur et à mesure du temps et des saisons et ce que les producteurs nous donnent.
Quelques plats, là, emblématiques.
Bah, il y a le reblochon farci, hein, qui est une spécialité savoyarde, mais que les gens adorent. Les escargots d'Arnaud, donc, qui sont produits à Mieussy, qui est à 10 km d'ici. Et la petite terrine aussi. La terrine de la sapinette, qui évolue aussi au fur et à mesure des saisons. Et pour les plats, on est surtout sur la noix de veau.
C'est qui la clientèle ici ?
Des gens qui aiment se faire plaisir, aiment boire du bon vin, manger des bons produits et des bons alcools également, parce qu'il y a une belle sélection d'alcool.
On se prépare une petite spécialité en cuisine ?
Allez, Flo, on va faire un petit reblochon farci. Un bon reblochon qui est produit à Mieussy, donc à la fruitière qui est juste à côté. Une belle poitrine de cochon, donc fait par Émonier, des cochons de Groisy. Donc voilà, une belle poitrine fumée à l'ancienne, plein de baies de genièvre, fumée longuement et bien séchée, bien découpée. Voilà, et on va rajouter à ça les petits oignons de la ferme des Beaux-Dames à Saint-Moins. Donc les filles qui viennent tout juste de commencer, 90% des légumes du restaurant viennent de chez elles. Donc du coup, bah là j'ai coupé mon reblochon en deux.
Donc une première moitié au fond de cette cocotte en fonte individuelle.
Exactement. Ensuite j'ajoute ma poitrine fumée, les petits oignons, donc revenus, une belle fondue d'oignons au vin blanc, de Jacquard du coup, domaine des Crous blancs. Pas trop parce qu'on va pas gâcher le vin non plus.
Et là on recouvre avec la deuxième moitié.
Exactement. Et là ça part pour 20 minutes de cuisson. Le petit reblochon de Mieussy, du coup, qui sort du four après 20 minutes. Comme sur la raclette, ce qu'on aime, c'est un bon petit tour de moulin à poivre. Dernière minute dessus. On remet le couvercle pour le garder bien au chaud.
Et on va déguster ça.
Donc le reblochon rôti, on le sert souvent avec des beignets de pommes de terre. Ça nous permet de vraiment tremper les beignets dans le reblochon. Ce qui est très cochon, très gourmand et canaille.
J'y vais ?
Allez-y. C'est gourmand ? Le but, c'était de faire un plat savoyard et ne pas rentrer dans les codes de la tartiflette, de la raclette et de la fondue.
Voilà. Merci.
Merci à vous.
Les beignets de pommes de terre qui font trempette dans un jacuzzi de reblochon. Et ce jacuzzi, tiens, Elvira Masson, puisque notre sujet du jour est cuisiner pour soi, cuisiner seul, eh bien ce reblochon fondu est servi dans une petite cocotte en fonte individuelle.
Ah, bonne idée.
Voilà. Vous faites usage de la cocotte en fonte individuelle ou pas ?
Je ne possède pas cet article, mais je me sers d'un plat qui va au four et j'aime beaucoup faire une petite raclette pour moi toute seule.
Ah, carrément ?
Ouais. Avec une... Alors, plutôt pomme vapeur que beignet de pomme de terre. Pomme vapeur, un peu de chou blanchi, et puis voilà, le fromage et quelques minutes sous le grill et on a une raclette minute pour soi.
Merveilleux ! La Sapinette, un amour de bistrot à Morillon. On est dans la vallée du Giffre, une superbe région en Haute-Savoie, pas très loin de la station de ski de Saint-Moins. Approvisionnement exemplaire, joli coup de main dans les assiettes, prix tenu, carte des vins ambitieuse, Justine Knapp.
On va aller jeter un coup d'œil.
Ah ouais, un générique de vins, notamment alpin et savoyard, tout à fait dingue. Accueil charmant de Victor, Marie et Pierre-Olivier Hédard. Quand François Simon s'y attablera et se demandera sur ses réseaux sociaux, y retournerai-je ?
Non, la réponse risque d'être aléatoire.
Ah oui,
moi, qu'est-ce que vous croyez ?
Mais je parie que vous allez répondre un grand oui, vous allez voir. Vous me le direz. On retrouve Elvira dans un instant pour cuisiner en solo. C'est Laurent Thomas qui cuisine cette émission, mais pas en solo. Elle, oui, elle est accompagnée à la technique de Sybille Clavins, Fabrice Rivaud pour la prépa et l'orga. Just Two Girls, c'est le titre de Wolf Alice que Djoubaka nous sert sur un plateau. Bon appétit en solo sur France Inter. Attention, écoutez bien Elvira. Spéciale dédicace à Bridget Jones.
Poids, 2000 kilos. Vie, très belle histoire avec deux hommes en parallèle. Le premier s'appelle Ben, le deuxième s'appelle Jerry's.
Let this one.
déguster sur France Inter.
On peut être seul pour mille raisons. Parce qu'on l'a choisi ou parce que la vie en a décidé ainsi. On est seul de temps en temps, parfois une semaine sur deux, parfois tout le temps. La cuisine pour une personne, la grande exclue des livres, qui formulent leurs recettes par défaut pour 4 à 6 personnes, ce n'est pas une vision réductrice, un pis-aller de la vraie cuisine. C'est une forme d'attention, c'est décider qu'on en vaut la peine, même si personne ne nous regarde, même si la société nous martèle que la cuisine est faite pour les autres. Je crois à une autre histoire possible. Je crois qu'on peut cuisiner pour soi si on le souhaite. Je crois qu'on peut aller chez le poissonnier, chez le boucher, au marché, pour soi. Même si ça demande de tordre le cou à un lieu commun, porté par une forte gêne sociale. Celle qui fait dire « je vais quand même pas cuisiner pour moi ». Ce livre n'est pas une injonction à bien manger, ni un manifeste pour cuisinier et cuisinière solitaire, ni un programme de bonne résolution. Ce livre est une manière de reprendre un peu de place dans sa propre vie, de ne pas attendre le bon moment ou la bonne personne pour s'accorder ce plaisir-là. C'est une invitation, une spatule tendue vers celles et ceux qui veulent remettre un peu de soin dans l'assiette, même et surtout quand il n'y a personne d'autre à table, juste soi.
Merci Elvira. Vous lisiez un extrait de l'introduction de votre livre « Recettes pour un, cuisiner pour soi » aux éditions Le Seuil. Le moins que l'on puisse dire, Elvira, c'est que les livres de recettes pour une personne n'existent quasiment pas dans le paysage éditorial. C'est pas du tout un filon qui a été exploité, entre guillemets,
non,
par l'édition culinaire. Comment alors avez-vous eu l'idée, apparemment saugrenue, de vous intéresser à ce sujet ?
Moi, je me demande même comment je ne l'ai pas eu plus tôt, cette idée, tellement ça me paraît évident. Mais ça me paraissait pas du tout évident quand justement la petite graine a été plantée dans mon esprit. Ça s'est passé il y a un moment vraiment décisif. C'était à l'occasion de la promotion de mon livre précédent, qui était consacré au sujet de l'alimentation et de la ménopause.
Manuel gourmand de la ménopause, ouais, toujours chez le même éditeur d'ailleurs.
Et j'en faisais la promotion avec ma co-autrice, Jennifer Hart-Smith, qui est beaucoup venue ici, qui est pâtissière, naturopathe.
Donc c'était il y a 2 ans ?
C'était il y a exactement 2 ans, c'était à l'automne 2023. Nous étions en signature, rencontre, dédicace dans une librairie formidable dans le 20e, le comptoir des mots, rue des Pyrénées. Et à l'issue de cette rencontre avec les lecteurs et lectrices, surtout des lectrices, je ne vous cache pas, est venue nous voir une personne à la fin, une femme, qui nous a dit à Jennifer et à moi, votre livre est super, je l'ai acheté, il est très instructif, mais c'est vrai, mes enfants sont grands, ils sont plus à la maison, je suis séparée du père de mes enfants. Alors c'est vrai que vos recettes là, de grands plats en cocotte pour 4 à 6 personnes, je ne me vois pas trop les faire. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est fou que ne nous ait pas traversé l'esprit qu'une recette pouvait être rédigée pour moins que la famille au sens conventionnel, occidental du terme. En fait, ça m'a paru dingue de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et c'est à ce moment-là, ça a planté une petite graine, comme je vous disais.
Et là, vous êtes dit,
le prochain sujet, c'est forcément ça. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ce soit à ce point pas un sujet, qu'il y ait une telle norme sociale, de fait, mais aussi une norme dans l'édition. C'est-à-dire que les livres sont vraiment conçus ainsi et on ne questionne pas cette chose-là. Et donc je me suis dit, en fait, si c'est ainsi dans l'édition culinaire, c'est un impensé et c'est à peu près le même impensé qui concerne l'état sociétal de la personne qui vit seule.
D'autant
qui est un sujet qui n'intéresse globalement personne.
Je crois qu'on peut dire aussi, Elvira, que vous avez été influencée dans votre projet par la situation de votre maman, sans trop divulguer votre vie privée.
Oui, ma mère est veuve depuis 5 ans. Elle a 80 et quelques années, je vais laisser ça un petit peu dans le flou, donc elle a 80 ans. Elle a ce réflexe, mais qui est un réflexe qu'on retrouve chez des personnes plus jeunes, qu'on entend beaucoup quand même à cette génération-là, mais aussi plus tôt, qui est « je vais quand même pas aller chez le boucher pour moi toute seule ». C'est même pas « je vais pas cuisiner », c'est « je vais pas aller chez le boucher, je vais pas aller chez le poissonnier ». Comme si on avait peur là réellement du regard social, comme si on achète juste, je sais pas, un petit peu de viande hachée ou un petit morceau de gîte ou de macreuse, le commerçant allait nous dire, mais ce qui, à mon avis, est parfois le cas, dire très fort, et avec ça, qu'est-ce que je vous mets ?
Mais oui, c'est ça.
Cette fameuse phrase.
Si on va acheter un steak haché de 125 grammes, on a forcément le boucher qui vous regarde bizarrement parce que vous n'achetez que ça, en fait.
Et c'est déjà, ça arrive quand même parfois que les commerçants, je ne veux pas du tout stigmatiser des professions, mais qu'on peut sentir gêné du regard que le commerçant, que peut-être le reste de la file d'attente le dimanche matin au marché va porter sur soi, si on achète en toute petite quantité. Ça aggrave, en fait, ça décuple un petit peu ce sentiment de solitude. Et c'est vrai que c'est un peu le deuxième élément déclencheur à l'envie de faire ce lit. J'ai envie de dire, mais c'est OK d'aller chez le boucher. boucher. C'est super, en fait, de se lever le dimanche et de faire cet effort-là et de s'accorder ce plaisir-là. Mais oui, j'avais un peu envie de tordre le cou aussi à cette réalité-là, c'est vrai.
Vous m'avez, chère Elvira, envoyé un petit texto en préparant cette émission. Je peux le lire ou pas?
Ah bah bien sûr. Enfin, ça dépend duquel.
Mon bouquin n'est pas une apologie de la solitude, attention. On sait à quel point celle-ci peut être subie. Mais c'est plutôt un manifeste pour une plus heureuse cohabitation avec soi-même, voilà. Et cette cohabitation peut donc passer, et c'est votre cas, Elvira, par la cuisine.
Oui, parce que je pense que la cuisine, d'abord, c'est un biais de plaisir. C'est quand même le plus sûr et le plus rapide moyen de se faire du bien physiologiquement, mais aussi moralement et psychiquement. Mmh. C'est aussi, la cuisine est l'endroit où on peut improviser, où on peut être un peu créatif. Et c'est vrai que je trouve que la cuisine est un truchement efficace, rapide, joyeux, fécond, pour reprendre la main sur cette cohabitation avec soi-même.
Alors des gens seuls, on l'a dit, hein, y en a beaucoup, on en connaît tous autour de nous, qui ont besoin de se nourrir. On va voir en quoi justement d'ailleurs cette cuisine pour soi correspond à des stratégies très efficaces que vous développez dans votre livre. C'est pas toujours facile de cuisiner pour soi en termes de proportions, en termes d'ustensiles, en termes de récipients, en termes de...
pas forcément comment s'y prendre.
Ouais, c'est un peu... situation, la solitude entre guillemets alimentaire est même aggravée par la réalité du télétravail.
Ah, complètement.
De ouais. plus en plus d'employés ouais. à la maison.
De plus en plus de livraison de repas à domicile. Remettre son assiette à soi au centre de la table, c'est aussi une manière d'échapper à ce dont on dépend si on ne fait pas cet effort-là. C'est-à-dire, c'est très bien de ne pas cuisiner. Si on a la flemme, si on n'a pas envie, on a tout à fait le droit. Mon livre n'est encore une fois, comme on le disait dans le petit texte d'introduction, c'est pas une injonction. Si on a la flemme de cuisiner, si on n'a pas envie, si on passe sa vie à cuisiner une semaine sur deux, on a le droit de s'accorder un break et de dire je me mets en mode veille la semaine suivante. Mais si on cuisine pas quand on est en télétravail, qu'est-ce qu'on va manger?
Et bien justement, on va voir quelles sont les stratégies possibles. Il y a quasiment toutes les recettes à toutes les pages que j'ai envie de m'approprier, j'en connais déjà certaines et j'ai cette chance, mais qui sont vraiment extraordinaires et qu'on peut effectivement cuisiner pour soi. On peut même aller, vous nous autorisez à multiplier les ingrédients par quatre pour quand même, si on a envie mais de faire partager vos recettes.
C'était l'idée, je l'ai pas assez dit.
À des amis ou des proches à table.
C'est quand même beaucoup plus simple de multiplier par deux ou quatre, notamment, il vient tout à l'heure pour les desserts, que de diviser par quatre, notamment quand on prépare
vous
des gâteaux.
Vous avez raison.
Ah, vous avez... Évidemment, vous avez le droit d'inviter des amis chez vous.
Elle a réponse à tout, Elvira, c'est formidable. Alors, on va commencer de manière assez peu intimidante avec ce qui correspond en fait à votre premier chapitre. Alors, j'aime beaucoup, page 16, il y a le premier chapitre qui s'appelle « Debout dans la cuisine ». Qui, autour de ce plateau, ose manger debout dans sa cuisine?
En préparant, on grignote un petit peu avant de se mettre à table, non?
François, ouais, moi, j'aime bien manger debout, parce que... déjà, dans la journée, je reste souvent assis. Et j'aime bien l'énergie verticale.
Comme c'est bien dit, Stéphane Solier.
Moi, c'est uniquement quand je suis en retard que je dois aller au travail et que je n'ai pas le temps. Donc, je mange sur le manche debout, la table. Et,
quand vous êtes un peu pressé.
Donc, c'est pas vraiment très plaisant parce que je prends pas le temps de savourer ce que je vais manger.
Elvira, je la connais bien. Je peux vous dire que régulièrement, elle grignote debout. Et je crois savoir que les nutritionnistes ne vous en veulent pas.
Oui, alors j'étaye pas ça d'une grande science.
Ah d'accord, elle s'arrange.
Non, okay. Non, j'ai lu un article sur le site de la BBC,
ouais.
Mais qui était un peu curieusement sourcé, néanmoins je m'en suis servi parce qu'il m'arrange bien, qui explique qu'il n'y a aucune contre-indication nutritionnelle au fait de manger debout. Néanmoins, il est évident que le fait de manger debout fait qu'on mange sans doute un petit peu trop vite et qu'on mastique pas assez. C'est plutôt ça. On sait qu'il faut, le fait d'être assis pour prendre le temps fait qu'on mastique plus et on sait à quel point la mastication est importante pour la bonne digestion. Néanmoins, on peut essayer de faire l'effort de manger debout et de mastiquer un peu.
Absolument.
Donc il n'y a pas de contre-indication, voire, si on peut rentrer un peu dans le détail, en cas de reflux œsophagien, c'est une station qui est plutôt recommandée.
Comment vous appelez ça, François Simon?
La station verticale.
L'énergie verticale. Donc pratiquons l'énergie verticale.
Au reflux, précisément.
Non, pardon, merci, on rentre François un petit Régis. Peu trop dans le détail. Mais... et je trouve plus joyeux de savourer debout dans sa cuisine que de manger un truc assis devant son ordi.
Commençons par ce que vous appelez ces petits grignotages géniaux que tout le monde peut s'approprier à la maison, qui sont très colorés dans vos assiettes. François Simon, s'il vous plaît, avec vos doigts, prenez ce que vous voulez et faites-nous un petit commentaire.
Ça, c'est un petit peu le plus basique du manger debout.
On ne dit rien.
On commence par le commencement.
C'est bien, c'est bon, c'est des onomatopées.
Oui.
Oui, shebam. Non, c'est très bien.
C'est délicieux.
C'est vraiment un petit bricolage. Hein.
Mais c'est quand même le coitus interruptus, là. Hein. C'est-à-dire, c'est délicieux, mais ça s'arrête tout de suite.
Ah, il y en a d'autres.
Ah bon. Et oui, parce qu'on parle de petites bouchées.
Des petites crudités arrangées.
Et en même temps, très saines. Ouais. Racontez-nous.
En fait, l'idée, c'était d'avoir un peu une entrée en matière pour les personnes qui disent je sais pas comment m'y prendre, je sais pas quoi me faire à manger quand je suis tout seul, je sais pas. Je réponds souvent prends une crudité et empile des choses bonnes dessus. Et a priori, tu peux pas te louper. Une tranche de céleri rave un peu épaisse, une tranche de concombre, une tranche de radis red meat, mais ça pourrait être du radis noir, sauf que le radis noir que j'avais chez moi, il commençait à être un peu ramollo. Et on imagine des petits accords qui pourraient fonctionner. Concombre, c'est frais, donc j'y ai collé quelques lamelles d'un comté 30 mois, qui est donc très, comme ça, très umami. Et je me suis dit, bah, fraîcheur, umami, un peu d'huile de noix, j'avais plus de cerneau de noix, donc j'ai mis une noisette. Et je trouve qu'en fait, en multipliant comme ça des petits accords, eh ben on commence à se faire plaisir. Sur la tranche de radis noir, je vois plus, radis noir, j'ai écrasé des sardines avec un petit peu de...
Citron confit, non ?
Citron confit, aneth et un fromage blanc. Alors là, j'avais un super fromage blanc, le Gouel.
Là, vous évoquez cette spécialité bretonne.
Délicieuse, mais on peut très bien avoir un yaourt grec. Il faut juste que la matière soit un peu grasse. Et ça va bien ensemble, c'est frais, c'est croquant. Et le troisième, c'est chou rave, labné, œufs de truite.
Chou rave, c'est formidable.
Bah, c'est super parce que du coup, il y a ce. Moi, je trouve que ça, quand c'est cru comme ça, ça a le goût de petit pois. Enfin, il y a quelque chose très frais, très sucré, très délicat. Et là, de pouvoir l'utiliser comme ça, c'est super.
En voilà une super idée. Donc, c'est exactement le genre de bricolage qu'on peut faire à la sortie du frigo. C'est nourrissant, c'est équilibré, ça croque, c'est cru.
C'est l'équivalent d'une tartine, mais c'est végétal et on fait un peu avec ce qu'on a. Mais ça marche avec du thon, ça marche avec n'importe quelle crudité qu'on taille un peu épais.
Eh bien, écoutez, ça, on retient ces petits tours de main. Évidemment, vos recettes sont à retrouver sur notre site franceinter.fr à la page On va déguster. La solitude en cuisine et à table, c'est un thème, Stéphane Solier, qui a été abordé et exploité de diverses façons par la littérature.
Oui, j'aurais pu convoquer pour cette émission les héros solitaires de Jean Echenoz et de Jean-Philippe Toussaint. J'aurais pu citer Lucien de Rubempré, vous savez, qui... quand il arrive à Paris dans Les Illusions perdues de Balzac, s'offre un somptueux repas solitaire chez Véry,
et oui,
dans lequel il se ruine d'ailleurs. J'aurais pu citer le gourmet solitaire de Taniguchi, mais connaissant...
Sacré manga japonais.
Sacré manga japonais, hein, où le héros vagabonde dans les rues. Il tombe par hasard parfois sur des bistrots, des petits endroits
des
où
izakaya.
Manger. Exactement. Connaissant l'amour, la passion qu'Elvira voue à Marguerite Duras, j'ai choisi un extrait de La vie matérielle, qui est un recueil de courts textes qui mêle l'autobiographie et l'essai, et dans laquelle elle se révèle. Il y a une sorte de retour en arrière sur toute sa carrière, toute son œuvre. Et il y a un très très joli texte que je laisse à Elvira le soin de lire.
À Naufles, souvent, je faisais de la cuisine au début de l'après-midi. Ça se produisait quand les gens n'étaient pas là, qu'ils étaient au travail ou en promenade aux étangs de Hollande ou qu'ils dormaient dans les chambres. Alors j'avais à moi tout le rez-de-chaussée de la maison et le parc. C'était à ces moments-là de ma vie que je voyais clairement que je les aimais et que je voulais leur bien. La sorte de silence qui suivait leur départ, je l'ai en mémoire. Rentrer dans ce silence, c'est comme rentrer dans la mer. C'était à la fois un bonheur et un état très précis d'abandon à une pensée en devenir. C'était une façon de penser ou de non-penser peut-être, ce n'est pas loin, et déjà d'écrire. Lentement, avec soin pour que ça dure encore, je faisais la cuisine pour ces gens absents pendant ces après-midi-là. Je faisais une soupe pour qu'ils la trouvent prête au cas où ils auraient très faim. S'il n'y avait pas de soupe prête, il n'y avait rien du tout. S'il n'y avait pas une chose prête, c'est qu'il n'y avait rien, c'est qu'il n'y avait personne. Souvent, les provisions étaient là, achetées du matin. Alors, il n'y avait plus qu'à éplucher les légumes, mettre la soupe à cuire et écrire. Rien d'autre. J'adore ce texte.
Vous aussi, Stéphane Solier, vous l'adorez, ce texte?
Ah oui, c'est extraordinaire. Dans ce passage, en fait, la solitude n'est pas mélancolique, mais presque sacrée. La cuisine devient un espace de retrait, de présence à soi, un moment hors du langage, hors de la création littéraire même. Ce que dit cette scène, en fait, c'est que la solitude, d'abord... peut être volontaire, elle veut être seule, sans spectateur ni partenaire. C'est un rituel sensoriel, hein. Elle est avec les choses, avec les odeurs, les casseroles, c'est une forme d'incarnation de la pensée. Il y a une suspension du langage, alors qu'elle est écrivaine, elle dit que là, elle ne parle pas, elle se tait et agit. Il y a aussi l'expression d'une féminité libre. Elle ne cuisine pas pour plaire ou nourrir, mais pour elle, ce n'est pas un devoir, c'est une manière d'être au monde, de rendre présents les autres. Et enfin, c'est un acte créatif pour faire plaisir à ses amis. Par appétence pour la vie matérielle, elle s'adonne volontiers à cette activité créatrice. Écoutez ce qu'elle dit sur France Culture en octobre 1984.
Vous voulez savoir pourquoi je fais la cuisine ? Parce que j'aime beaucoup ça. C'est l'endroit le plus apparemment antinomique de celui de l'écrit. Et pourtant, on est dans la même solitude quand on fait la cuisine. La même inventivité. On est un auteur quand on fait la cuisine. Hein ? Moi, par exemple, il y a des choses que je suis unique en France à faire.
Quoi ?
L'omelette vietnamienne, ça commence à faire le nombre de gens qui me disent que c'est la meilleure chose qu'ils ont mangée de leur vie. Vous vous rendez compte ? Comment voulez-vous que je sois indifférente à ça ? J'ai cette faculté-là de pouvoir refaire les plats quand je les mange.
J'aime bien quand Marguerite Duras s'envoie des fleurs quand même. Elle est assez sûre de son talent culinaire. Hein.
Telle qu'en elle-même, en toute modestie. Mais ses amis trouvaient effectivement qu'elle était une très très grande cuisinière. D'ailleurs, il y a un petit livre formidable qui s'appelle La cuisine de Marguerite, qui n'est pas son livre de recettes, mais un livre qui a été publié après sa mort, et qui reprend beaucoup d'extraits de recettes compilées issues de plusieurs livres, et qui est épatant.
Dans un autre registre, Elvira, car vous nous proposez des recettes à la fois françaises, mais piochées dans les répertoires du monde entier, et notamment cette galette irrésistible. Alors, la galette, par définition, ce peut être un objet à la taille d'une poêle individuelle, donc il s'agit bien là, pour le coup, d'une recette pour une personne, c'est cette fameuse... Alors, est-ce que c'est un pancake ? Est-ce que c'est une crêpe ? En tout cas, on parle de recettes salées, d'origine coréenne.
Absolument. Alors, moi, j'appelle ça un pancake, mais c'est vrai que c'est un peu allusif. Et c'est vraiment l'idéal pour recycler les légumes crus, la carotte qui commence à ramollir un peu, la courgette, c'est pas la saison en ce moment, mais un petit fond de poireau, etc. Ces légumes qui commencent à tourner un peu de l'œil au fond du bac à légumes.
Voilà, c'est bon.
On détaille ce qu'on a comme légumes et comme herbes d'ailleurs, parce que là il y a des feuilles de coriandre entières, j'ai mis des morceaux de tiges de coriandre. On détaille tout assez finement. Et de l'autre côté, on prépare une petite pâte. Alors, la pâte, c'est comme une pâte à crêpes. Hein. C'est de la farine, de l'eau, il y a un peu de bicarbonate de soude, mais je ne sais même pas forcément trop à quoi ça sert, mais je le mets. Un peu de sel, un petit peu d'ail pressé. On prépare cette pâte, elle n'a pas besoin de reposer. Et on y immerge les petits légumes qu'on a détaillés finement. Et on dispose cette pâte dans la poêle. Ça cuit quand même quelques minutes aller-retour. Et la magie du truc, c'est qu'on fait une petite sauce et on trempe dedans. La sauce, c'est sauce soja, vinaigre de riz, huile de sésame.
Quel régal!
Et c'est facile, c'est inratable. C'est pas très croustillant, hein, le pad jaune.
Mais
c'est
non, au contraire, il y a même quelque chose d'un peu élastique.
Un peu de chouï.
Un peu gluant, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Chatoyant, délicieux.
Chatoyant.
Ah bah, ça fait
absolument
plaisir.
C'est chatoyant, visuellement et gustativement, tout à fait.
Et il y a quelque chose aussi de délicat et assez fin.
Oh là
parce
là.
Que j'ai tenté une expérience un peu comme ça, du même type, et honnêtement, je l'ai... c'était un peu plus bourratif.
Alors
et
j'allais dire
là,
la
là,
même
c'est
chose.
C'est très, très bon.
Elvira, c'est pas pour. J'ai tourné longtemps autour du Pad Jeun, ce pancake salé d'origine coréenne, après un voyage à Séoul où j'ai craqué pour cette recette, je suis jamais arrivé à ce résultat. Là, on a vraiment la sensation d'un truc rebondissant, très élastique.
Ça doit être un peu de chouï, ouais, c'est vrai.
Mais en même temps, il y a le croquant des légumes.
Il faut quand même
c'est vraiment
qu'il y ait un bon ratio légumes-pâtes, il faut quand même plus de légumes que de pâtes. Il faut que ce soit un peu généreux en légumes.
Et c'est, en même temps, c'est dans votre livre recette pour un, mais c'est idéalement la recette pour une personne, facile à faire.
Oui.
On mélange tous les ingrédients, la pâte dans un bol.
Pas de temps de repos, ça se prépare minutes, on prépare ça en 10 minutes, c'est facile, on ne peut pas se louper. Coût de revient très faible, enfin, je trouve que là encore une fois, c'est une entrée en matière super quand on n'ose pas trop se lancer, quand on est seul.
Bien d'autres recettes dans un instant avec notre amie Elvira Masson. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Boire seul, mais avec modération. Et peut-être, on va le voir, de manière contemplative, c'est le défi de Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp, c'est à vous.
L'année dernière, en septembre 2024, Fabienne Sintès s'intéressait dans le téléphone sonne au vin en France. Et dans son introduction, voici ce qu'elle disait. Elle parle de Pierre, l'attaché de production de l'émission, qui a 30 ans.
Pierre m'a expliqué que de toute façon, il en boit chez ses parents un peu, mais jamais chez lui, parce que la bouteille est trop grande et finirait par tourner au vinaigre. Et là-dessus, moi qui suis plus vieille, un peu plus éduquée au vin, mais pas beaucoup quand même, ouvrir une bouteille pour ne pas la boire, c'est fiche de l'argent en l'air et aussi du vin en l'air, donc autant boire une bière.
Un détail qui pourrait changer la donne pour Pierre, pour Fabienne Saintès, pour les petites soifs. Je crois qu'on n'est pas forcé de devoir vite, vite finir la bouteille. Alors c'est vrai, l'ennemi du vin, une fois la bouteille ouverte, c'est l'air. Et moins il y a de vin dans la bouteille, plus c'est problématique. Première chose, on remet un bouchon, on place le vin au réfrigérateur, blanc comme rouge, parce que le froid ralentit ce processus d'oxydation. Ensuite, ce que je remarque, c'est que peu des vins que j'ouvre s'écroulent complètement le lendemain. J'ai même l'habitude de goûter sur 2 jours quand je dois me faire un avis sur un vin. Certaines bouteilles tiennent sans sourciller pendant 1 semaine. Parfois, des vins sont même meilleurs le lendemain, moins froissés. Il y a des domaines prestigieux qui préconisent plusieurs jours d'ouverture pour leurs grands vins, pour qu'ils s'expriment pleinement. Ou au contraire, certains domaines disent aujourd'hui ou rien, ou plus rien. J'ai cherché un début de réponse, pourquoi un vin résiste mieux qu'un autre, mais je me suis confrontée à presque autant d'expériences que de vignerons et de vigneronnes, autant d'avis que de professionnels du vin. Axel Marshall est professeur d'œnologie à Bordeaux et il m'a expliqué qu'il y a très peu de travaux scientifiques conduits à ce sujet et qu'il faut se méfier des raccourcis. On a tendance à penser qu'un rouge se fane moins rapidement, qu'un blanc élevé longtemps en fût est plus stable, que c'est une question de matière, de concentration, de raisin mûr, mais pas toujours, pas sûr. La vitalité du raisin, le millésime, l'élevage, les sulfites, en fait, il y a trop de paramètres qui entrent en jeu pour vraiment tabler sur des règles. Les vignerons et vigneronnes connaissent leur vin, donc on peut leur poser directement la question. Par exemple, domaine La Calmette.
Ah, ça on est à Cahors.
Voilà, juste au-dessus. Les 2023 restent très bons pendant 1 semaine, même servis régulièrement. Au domaine d'Irlercadet en Alsace, les blancs sont délicieux pendant 5 à 7 jours, d'autant plus quand la bouteille est à moitié pleine. Et les rouges, c'est surtout le jour même et le lendemain. Pour ma part, avec le même plaisir que j'ai à me rendre seule au cinéma ou au restaurant, j'aime avoir un vin au réfrigérateur et j'aime le suivre, sans gadget, sans méthode, selon mon envie quand j'y pense. Je le sirote du début de sa vie jusqu'à sa mort. Et c'est une manière de découvrir à chaque fois une autre facette du vin, comme une lumière qui bouge sur un paysage. Si on perd des arômes, on observe la structure. Les contours s'estompent, parfois pour plus de douceur. On suit l'énergie qui baisse ou qui se maintient. C'est l'idée d'une slow dégustation,
eh ben oui.
D'une dégustation longue. À l'inverse des moments d'abondance et de joie, des grandes tablées, des étiquettes qu'on aligne fièrement avec beaucoup de goûts différents qui se superposent. Mais j'aime aussi suivre un seul vin doucement.
Qui est dans le cas de Justine autour de ce plateau, de voir évoluer une bouteille qu'on laisse dans un coin de sa cuisine et qui effectivement exprime des palettes aromatiques différentes de jour en jour. Moi j'adore faire ça.
Moi c'est j'adore faire ça aussi.
Extraordinaire.
Ah oui, j'adore cette contemplation-là et puis l'observation de l'évolution, je trouve ça super.
C'est
ça me plaît beaucoup, ouais.
Vous nous donnez quand même, Justine, quelques valeurs sûres qui durent après ouverture.
Oui. Des vins stables pendant des semaines, les vins liquoreux,
oui.
Qui sont eux tenus par leur sucre, et les vins oxydatifs, immunisés par leur élevage au contact de l'air et insolents de facilité pour les accords. Et contrairement à une idée reçue, je trouve que les effervescents tiennent très bien. Champagne, crémant, voire certains cidres. Le CO2 dégagé par les bulles sature la bouteille. Et ça fonctionne avec un accessoire utile et bon marché, un bouchon stopper.
Le bouchon stopper qui préserve l'effervescence du vin.
Voilà, la cuillère dans la bouteille, ça marche pas.
On oublie la petite cuillère, ok.
Et dans votre verre, je vous ai servi un Mont-Louis-sur-Loire 2022 de l'excellente vigneronne Laura David.
Mais oui, Laura David.
À prix de plaisir individuel, 16 €. Un effervescent avec le sens du détail. On sent le fruit frais, c'est charnu et en même temps le vin trace en ligne droite, salin, délicieux. Et c'est une cuvée que j'ai actuellement dans mon frigo, ouverte la semaine dernière et qui est encore en pleine forme.
Comme quoi, on peut de temps en temps se faire plaisir, avec parcimonie évidemment, avec quelques gorgées d'un vin, quand on est seul, que l'on prélève à la bouteille. Laura David, si j'ai bonne mémoire, c'était un des coups de cœur
de Pascaline Le Pelletier.
De la sommelière française Pascaline Le Pelletier, qui était notre invitée il y a quelques années. Laura David à Mont-Louis-sur-Loire, c'est délicieux ça. Hein.
Délicieux.
Avec une effervescence, une bulle extrêmement fine, une jolie rondeur, et en même temps beaucoup de longueur et de fraîcheur. Bravo, hein. Sacré coup de maître. Donc ça... effectivement, on peut la garder ouverte quelques jours.
Oui, et ça fonctionne très bien en mangeant.
Merci beaucoup, Justine. Dans un instant, d'autres belles recettes en solo signées Elvira Masson. Le ding du gourmet solitaire François Simon, évidemment. Et d'autres morceaux de littérature servis par Stéphane Solier.
Je me taille des costards. Je me donne des noms d'oiseaux. Sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment. Ma petite abeille, mon gouffre de conscience. Butiner les fleurs du mal, avaler des sabres, des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment. Ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
Il y a la solitude et il y a aussi la béatitude de Bertrand Belin. Magnifique chanson bachungesque, on peut dire. Mais alors très belle chanson. Cuisine pour soi et soi seul, c'est le menu que l'on aborde aujourd'hui avec notre invitée Elvira Masson, autrice de Recettes pour un, cuisiner pour soi aux éditions du Seuil. François Simon aime-t-il les plaisirs solitaires? C'est sa chronique Ding.
On va déguster sur France Inter.
Cher François Simon, j'ai aujourd'hui l'impression que le thème de l'émission éveille en vous quelques lueurs dans votre regard. Est-ce que je me trompe?
Effectivement, rassurez-vous du reste, François-Régis. L'émission sur le carrot cake et le piment d'Espelette avait remué en moi, cependant, une profonde émotion. Et là, avouez-le, que la tentation est jouissive. Déjeuner, dîner en solo, c'est parfois le rêve inaccessible de bien de nos auditeurs, délicieusement cernés de proches et de membres familiaux. Combien de fois, pour ma part, je me suis retrouvé seul au restaurant, tout seul, comme le soulignent les maîtres d'hôtel lorsque vous arrivez. Bah oui, tout seul et bien content de l'être. Non point que la compagnie humaine me soit désagréable, mais j'ai régulièrement l'impression d'être dépossédé par le monde, mes chefs, mes amis, mes amours, le sort de la planète. Aussi, lorsque le livre d'Elvira est arrivé, j'ai longuement souri, trouvant là enfin une complice. Car dîner en solo, à la maison, c'est souvent une petite pépite. Personnellement, je m'applique même lorsque c'est frugal. Par exemple, une soupe de potimarron, noisettes grillées, huile d'olive, fleurs de sel, un peu de poivre. Je mets une nappe blanche sur un plateau, je laisse mijoter, je savoure lentement par petites cuillerées, histoire d'apaiser l'appétit, le laisser ramper paisiblement. Mais pour autant, j'ai encore mieux dans le genre.
Oula, vous m'intriguez, François.
Ouais, je vais vous livrer une des parades de ma félicité solitaire et solaire. Une fois l'an, lorsque les méridiens s'entrecroisent dans ma tête, lorsque je ne sais plus vraiment où j'habite, je m'invite au restaurant.
Vous vous invitez ? Comment ça ?
Bah, ça peut paraître étrange, mais non point que je me passe un coup de fil, mais je regarde mon calendrier, je choisis une date en semaine, histoire d'être peinard et je réserve. Je réserve pour deux, hélas, car aujourd'hui, lorsque vous allez sur les sites de réservation, parfois la case « un couvert » saute, ou alors elle est étrangement complète. Grosso modo, je choisis alors un restaurant classique, on va dire bourgeois, orienté vers les poissons. Ce jour-là, je m'habille bien, avec soin. Belle chemise blanche, cravate, costume classique, un peu de sambon et zou. Longue marche à pied pour arriver léger, le cœur en habit, l'appétit en étendard. Autre chose fondamentale, j'arrive en tout début de service, histoire de respirer, de renifler les lieux. Je raconte alors que mon invité ne viendra pas. Cela provoque parfois une sollicitude inattendue, même si par derrière le maître d'hôtel ricane de ma déveine et me compte pour du beurre. Un restaurant cossu, cela veut dire espacé, où la table voisine ne m'emprunte pas la salière et dont on doit gérer les postérieurs lorsqu'il s'extrait de la banquette. Non, la respiration, la paix. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bah, parfaitement, François, mais alors, vous tapez carrément la cloche ?
Non. Je commande un plat d'enfance, la sole meunière, que je demande non préparée. Car le meilleur, vous le savez tous, se trouve dans les bordures, le collagène caramélisé. Je bois un vin blanc froid, très froid, pardon Justine, et voilà.
Et alors c'est tout ? C'est tout ?
Bah non, car j'ai fort à faire. Je fais le point sur ma vie, et je me pose même la question suivante à demi-voix. Alors François, comment vas-tu ? Et là, sans détour, je me mets face à un miroir imaginaire, sans complaisance, mais avec bienveillance, et procède aux vérifications d'usage. Pression des pneus, contrôle des niveaux, liquide d'essuie-glace, amortisseur. Voilà, cher François-Régis, chers auditeurs, tout ce que je vous souhaite un jour, vous verrez, c'est irrésistible et ça se mange sans fin.
Waouh, s'inviter au restaurant, en voilà une belle idée. Qui oserait faire ça autour de ce plateau ? Elvira ?
Ouais, moi je pense, ouais. Je suis prête à tout maintenant.
Vous êtes un animal social, Elvira,
je vous
connais bien.
Je suis un animal
social, mais
j'aime beaucoup.
Vos moments à vous, y compris au restaurant, dans votre cuisine.
Ils sont très importants pour moi. Seul au cinéma, seul dans un musée, seul au restaurant, seul dans ma cuisine.
Seul avec un livre, parce que vous lisez 3 ou 4 romans par semaine.
Oui, j'aime bien être seule, en fait, c'est ça. c'est le fin mot de l'histoire, c'est ça.
Mais disons que ça permet de...
Justine Clapp.
De pouvoir se concentrer sur l'assiette et pas sur la conversation.
Ça, c'est
des
vrai.
Fois, c'est intéressant.
C'est vrai. Moi-même, à titre personnel, j'ai visité de nombreux restaurants seuls parce que nos frais sont limités. Quand on exerce pour un média, le métier que connaît bien François Simon de critique gastronomique, effectivement, on est plus concentré sur l'assiette.
Et sur le spectacle de la salle aussi.
On est plus sensible à ce qui se passe, aux voisins et à leurs discussions. Souvent, on a l'oreille qui traîne.
Et ce qui est drôle, c'est que souvent, il y a des couples comme ça qui s'ennuient, mais à sens ou de l'heure. Et qui vous regarde presque avec envie.
Stéphane Solier,
oui.
En termes de littérature, qu'est-ce que ça vous inspire, cette expérience de la solitude à table ?
Écoutez, vous connaissez mon amour pour la littérature gréco-latine, et là j'ai trouvé un personnage dans cette littérature, un saint patron pour François, un saint patron pour Elvira. Il s'agit d'un personnage très intéressant de l'histoire romaine qui s'appelle Lucullus. C'était un aristocrate et général romain connu pour ses nombreuses victoires militaires qui lui ont permis d'amasser une grande fortune, 9 millions de sesterces, grosso modo 7 millions d'euros aujourd'hui.
Ah, quand même !
Et de s'adonner, après sa carrière, à des banquets fastueux pour satisfaire son palais, car il était assurément l'un des plus célèbres gourmets de l'Antiquité. Sa gourmandise est passée à la postérité, a même donné une phrase proverbiale que l'on peut trouver dans les pages roses du dictionnaire Larousse, par exemple. Voilà comment l'histoire s'est emparée de cette figure et le présente. La vie de Lucullus ressemble à une comédie ancienne. On y lit au début le récit d'actions politiques et militaires, puis à la fin, on n'y trouve plus que beuverie et souper, et peu s'en faut, cortège bachique, fêtes nocturnes et toutes sortes de divertissements. Une fois qu'il dînait seul, on ne lui avait apprêté qu'un unique service et un modeste repas. Il se fâcha et fit appeler le serviteur préposé à cet office. Celui-ci dit qu'il n'avait pas cru, puisqu'il n'y avait pas d'invité, qu'il fut besoin de mets somptueux. « Que dis-tu ?» s'écria Lucullus. « Ne savais-tu pas que ce soir, c'est chez Lucullus que dîne Lucullus. Voilà, cette phrase donc proverbiale, hein, Lucullus dîne chez Lucullus, qui semble proclamer le droit qu'a chacun de prétendre à un bon repas, même lorsqu'il est seul. Lucullus serait donc le chantre de la gourmandise solitaire, de la liberté de s'accorder des délices en dehors du cadre convivial. Attention toutefois, dans le cadre proprement romain, cette phrase apparaît comme un scandale. Et Lucullus s'est attiré toutes les foudres de la censure romaine, car la gourmandise solitaire de Lucullus le pousse à enfreindre les règles de la convivialité à Rome. Manger seul, c'est s'exposer à la molitia, à la mollesse, car elle se déroule sans contrôle, sans le regard censeur de commensaux qui exercent sur leur père une surveillance de bon aloi. Donc, pour nous, aujourd'hui, Lucullus serait un saint patron. Pour les Romains, c'était
mal vu.
Très mal vu.
C'est chez Lucullus que dîne Lucullus. Excellent. Elvira Masson, cuisiner pour soi, tel que vous le racontez dans votre livre, notamment en recette, ça correspond finalement presque à deux comportements antinomiques. On a le sentiment que cuisiner pour soi, ça peut être une façon de prendre soin de soi en cherchant les bons nutriments, en veillant à son équilibre alimentaire, en évitant tant qu'à faire les nourritures transformées, les nourritures industrielles, ce qu'on appelle d'ailleurs les produits ultra transformés. Mais d'un autre côté, et certaines recettes le montrent aussi, cuisiner pour soi, c'est finalement adopter un certain lâcher-prise, une douce anarchie alimentaire. On fait un peu comme on veut, on mange avec les doigts, on peut manger à même la poêle ou la casserole. On est un peu libre, en fait, quand on mange seul.
Mais c'est exactement ça, c'est une réalité complexe et multiple. C'est, comme vous le disiez, le plus sûr moyen de veiller aux apports nutritionnels, trouver où sont les protéines. On a trop souvent tendance, notamment quand on déjeune devant son ordinateur ou dans une vie de bureau, dans une vie professionnelle, à avaler une salade vite fait, bien fait. Quand on est à la maison ou qu'on se prépare un repas pour soi, on peut quand même, enfin, sans faire des calculs, sans être obsessionnel de l'apport en protéines, c'est quand
mais
même...
Mais on a une démarche transparente.
Ah bah oui, on sait ce qu'on mange. Et puis, on évite les additifs, on évite plein de choses, trop de sel, trop de sucre. Donc c'est quand même une des vraies raisons de se faire à manger à la maison. Une autre vraie raison qui est peut-être aussi motivante que celle-ci...
Et qui vous motive, ça
ouais,
je le sais.
C'est de faire comme on veut, quand on veut, à l'heure qu'on veut,
oui,
avec le gras qu'on veut. C'est-à-dire que si on a envie de manger un croissant de la veille, qu'on passe au four dessus-dessous, garni de
il y a la recette
fromage,
dans votre livre,
de roquettes, de ce qu'on veut. Si on a même envie de se faire des mouillettes avec ce dit croissant pour tremper dans un œuf. Si on a envie de manger des pâtes à 16h parce qu'on n'a pas eu le temps de déjeuner, on fait comme on veut. Et on transgresse effectivement aussi un peu l'ordre établi. C'est-à-dire que si on a envie effectivement de dresser une nappe blanche avec sa soupe au potimarron comme François...
Sur son plateau, absolument.
Mais on peut aussi, moi ça m'arrive aussi, manger directement dans la casserole ou dans la poêle. Je ne dis pas qu'il faut manger dans la poêle ou dans la casserole, mais on a le droit de le faire.
On a le droit de le faire,
c'est autorisé. Personne ne nous regarde, on fait ça pour soi comme on veut.
Il n'y a pas d'injonction sociale.
Non. Donc il y a à la fois des recettes dans le livre qui sont, et j'essaie quand même toutes de les penser avec un apport nutritionnel un peu malin, ou en tout cas équilibré, mais il y a aussi des choses comme ça qui sont un peu plus coquines, quoi, un peu plus grasses, plus de pâtes, plus de glucides, plus de beurre, plus de... voilà.
À quel camp appartiennent ces fameux petits serpents de couleur verte qui se dandinent dans nos assiettes?
Qu'est-ce que c'est? Non,
un peu les deux. C'est à la fois très correct nutritionnellement, et c'est tellement bon. Qui peut m'en faire une description, Stéphane Solier?
On aurait dit des haricots verts.
Oui, c'est vrai.
Donc ça donnait une bonne conscience à celui qui va manger. Et puis en fait, bon, moi je reconnais très vite, hein, là vous m'avez touché au cœur, puisque on est en Toscane, là, avec les picci. Non,
c'est exactement ça.
Et
la
picci
est une pâte un peu irrégulière, toscane, comme un spaghetti très épais, un peu élastique. C'est une pâte fraîche, une pâte qu'on fait à la main, fraîche. Sauf que là, j'en fais une version un peu déviante, qui n'a rien de toscan. Alors c'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Dans le bol d'un mixeur, alors moi j'ai un tout petit mixeur à la maison, je mixe un temps pour temps.
Un tout petit mixeur individuel,
oui,
forcément.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai toujours eu un tout petit mixeur individuel, même quand je cuisine pour beaucoup.
Ouais.
Un temps pour temps de roquette et de farine.
Pas d'eau.
Il n'y a pas besoin d'eau, parce qu'en mixant, l'eau contenue dans la roquette travaille avec le gluten de la farine de blé, et ça s'agglomère, et il y a assez d'humidité comme ça. Pour façonner une boule, c'est comme une boule de pâte verte, qu'on détaille après en lanière, qu'on roulotte comme ça sur le plan de travail fariné.
Donc pas besoin d'autres ustensiles, en fait, hein, on y va avec les mains.
Avec les mains.
Génial.
On roulotte, et puis on les cuit à l'eau bouillante quelques minutes, comme des gnocchis, le temps que ça remonte à la surface.
C'est extraordinaire.
Et là, on les passe à la poêle avec un filet d'huile d'olive, zeste de citron, parmesan. Là, j'avais quelques noisettes, j'aurais pu les mettre, j'ai oublié.
Mais en plus, une texture rebondissante, parce qu'il faut imaginer quand même des gros spaghettis un peu épais et qui sont très moelleux à la dent. Il en pense quoi, François Simon?
J'adore, mais je veux du rhum, hein, tout de suite.
Ah, bah, il y en a, ça tombe bien.
C'est un régal. Question, quand vous dites temps pour temps, on parle de poids ?
Non, c'est temps pour temps en volume, ce qui ne veut pas dire grand-chose. À l'œil, dans le bol de mon mixeur, c'est un temps pour temps en dimension, en volume.
D'accord.
Mais en vrai, on met plutôt 200 grammes de roquette pour 100 grammes de farine.
D'accord.
Mmh. Voilà.
Et on peut remplacer la roquette par...
Par des pousses d'épinards, ça aura un peu moins de goût.
Un autre légume feuille.
Oui, on pourrait faire des pitchis de kale.
Non, mais je pensais spontanément en saison à l'ail des ours, par exemple.
Ah oui, des pitchis à l'ail des ours, ça peut être très très bon, ouais. Mmh. Ah ouais, mais ça va dépoter, quoi.
Ça va dépoter. Alors vraiment, c'est une recette incroyable, toute simple à faire et très facile, encore une fois, à se bricoler quand on est seul. On finit par ce qu'on pourrait appeler un petit plaisir coupable, petit dessert fait en deux gestes, confondant de simplicité, en commençant par une très jolie ganache, Elvira.
Je me permets juste un petit mot, c'est vrai que le dessert, le sucré, c'est vraiment le répertoire qu'on ne s'autorise pas quand on est seul. On fait un dessert quand on reçoit quelqu'un, quand on a quelqu'un à la maison. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide, efficace. C'est une crème au chocolat coco. Il y a vraiment deux ingrédients. Vous avez les petites briques de lait de coco.
Lait de coco.
La petite brique de 200 ml. Vous la videz dans une casserole. Vous mettez 150 g de chocolat. Vous faites chauffer.
Un bon
chocolat
noir. Vous mélangez
un bon chocolat noir. Et c'est tout. Et ça va au frais. 5 heures. Et là, je l'ai servi avec un tout petit peu de fleur de sel et l'huile d'olive parce que j'aime bien. On n'ajoute pas de sucre. C'est le sucre contenu dans le chocolat et naturellement dans le lait de coco.
Et on parle en plus d'un dessert totalement végétal.
Et oui.
Ça alors, vous allez faire des émules, Elvira, je peux vous le dire. À la fin de l'émission, on va goûter ce petit feuilleté individuel aux poires. Comment on s'y prend en un mot ?
Sur une feuille de papier sulfurisé, on met un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, un petit peu de poudre d'amande. On dispose des lamelles de poire. On recouvre d'un rectangle de pâte feuilletée. On presse un peu les bords avec le dos de la fourchette.
Mm-hmm.
Ça passe au four, 30 minutes, 180 degrés. On retourne l'ensemble avec une spatule.
C'est un peu le principe du tatin.
C'est une mini tatin de poire.
Individuel.
On retourne l'ensemble avec une spatule pour pas que la poire reste collée au papier sulfurisé. Et on passe sous le grill quelques secondes, quelques minutes avant de servir. Ça fait comme une petite croustade à la poire. Voilà. Toute bête,
c'est bon.
Toute simple.
Et ben on finit cette émission la bouche pleine, n'est-ce pas, Justine, Stéphane, François, Simon.
Il y a du présentiel. Saloperie.
Régal. C'est incroyable à quel point votre livre, Elvira Masson, est blindé d'astuces, de bonnes idées, à commencer par ces plats sucrés dont on se régale, cette ganache. Moi, je trouve que c'est carrément un tour de magie. Vraiment bravo. Elvira Masson, recette pour un, pour renouer avec le plaisir solitaire de la cuisine et de la dégustation, cuisiner pour soi, au seuil. C'est vraiment un livre qu'il faut se procurer et offrir d'ailleurs aux gens qui sont seuls occasionnellement ou durablement et qui l'ont choisi, qui l'ont subi. Mais en tout cas, c'est un livre qui servira à de très nombreux auditeurs et auditrices.
Merci.
Un immense merci, Elvira. Vous serez d'ailleurs, précisons-le, en dédicace à la librairie 1000 pages. Nous sommes à Vincennes, en région parisienne, le...
17 décembre, c'est un mercredi à 17h.
Absolument. La semaine prochaine, on va déguster Dresse le couvert à Poitiers. Nous enregistrons l'émission en public le vendredi 12 décembre. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles à réserver sur la billetterie du TAP. Le lien est sur notre page internet. Rendez-vous à 11h au théâtre auditorium de Poitiers. Merci à toutes et tous, à bientôt François, à bientôt
merci.
Justine,
à bientôt.
Au revoir Stéphane, merci Elvira, et vous revenez en tant
merci
que chroniqueuse dans cette émission. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.